Je vous propose donc de commencer en remerciant Marc Andevel d'être venu. Et pour le remercier, je vous propose de commencer par une séance de téléachat.
À la façon d'Ardisson, lisez ce livre, il est paru chez Flammarion.
Ou bien à la façon d'Edoui Plenel quand il était sur LCI. C'est un ouvrage fondamental qui dévoile les coulisses de la vie démocratique. Bien à la façon de Gisbert, bientôt licencié de la remarquable émission qu'il anime, qui s'appelle La Semaine Critique. La seule chose qui soit vraie dans le titre, c'est effectivement c'est chaque semaine. C'est un livre exceptionnel, absolument remarquable, qui nous raconte une histoire avec des personnages très émouvants. Remarquable, rédigé par un des meilleurs journalistes français auquel je cède la parole pour introduire le débat.
Déjà, donc c'est un livre à partir d'une enquête que j'ai réalisée sur 10 mois, avec 230 entretiens, où j'ai rencontré des hauts fonctionnaires, des producteurs, des anciens cadres et des cadres de France Télévisions. J'ai amassé beaucoup de documents, beaucoup d'éléments sur l'histoire de France Télévisions. Voilà. L'histoire de France Télévisions depuis 15-20 ans, c'est un peu l'histoire d'une... je vais utiliser un mot qui est souvent galvaudé, mais l'histoire d'une gouvernance impossible de la part des différentes directions de France Télévisions. Et je vais commencer par vous présenter un peu les protagonistes à France Télévisions ou autour de France Télévisions, un peu qualifier le terrain de jeu de la télévision publique en France. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai plus des menaces qui pèsent sur la télévision publique, à la fois sur le plan des enjeux économiques ou des enjeux juridiques, je pense notamment à Bruxelles et au droit européen. Je parle dans le livre d'une véritable cour de Versailles autour de France Télévisions, mais c'est vrai que là, tu parlais de François-Olivier Gisbert, il y a eu ces derniers jours une petite polémique dans la presse, ça a quand même fait la une du monde, entre guillemets, sur Gisbert, Durand, qui serait mis au placard sur la volonté présidentielle. Bon, faut prendre un peu de distance avec tout cela, parce que, en fait, moi j'ai regardé sur 15-20 ans, le choix des programmes à France Télévisions est souvent dicté par des logiques d'influence, pas forcément présidentielle, mais en tout cas d'amitié. Et souvent, les amitiés prévalent sur les compétences ou le contenu des programmes. Donc ça, je raconte de nombreux cas, de nombreux éléments. Et avant que le président de France Télévisions soit nommé directement par le président de la République, c'était l'élection du CSA qui faisait loi, d'une certaine manière. Et à chaque élection du CSA, il y avait tout un tas de jeux d'influence. Chaque producteur, on va dire, se retrouvait dans les écuries autour des présidents de France Télévisions. Et quand celui qui a été élu arrivait en poste, généralement, les premières choses qu'il faisait, c'était de donner des cadeaux aux amis qui l'avaient soutenu pendant sa campagne pour accéder au pouvoir. Donc finalement, rien de bien nouveau. Donc dans le livre, j'évoque notamment l'ancienne présidence de Marc Tessier, c'était l'ancien président de France Télévisions, qui a eu comme soutien à l'époque Philippe Douste-Blazy, qui a été ministre de la Culture et des Communications, dont la compagne Dominique Ancien était productrice. Et Dominique Ancien a eu de nombreux programmes sur France Télévisions qui d'ailleurs ne fonctionnaient pas en audience. Donc ce petit jeu-là à la télévision publique en France a existé depuis bien longtemps. Alors, je raconte des situations assez cocasses au niveau des élections justement précédentes au CSA, parce que sur Marc Tessier, par exemple, on a pu voir carrément Lynn Renault parler de Marc Tessier au président de la République de l'époque, c'est-à-dire Jacques Chirac, pour dire « vous devriez nommer, ou faire nommer en tout cas, parce qu'à l'époque c'était via le CSA, Marc Tessier ». Ou Patrick de Carolis, qui a été principalement, qui a réussi à avoir sa place grâce à l'action de Dominique Baudis, qui était à la tête du CSA et qui, soi-disant, voulait mettre de côté Marc Tessier, qui n'avait pas eu un bon comportement pendant ce qu'on appelait l'affaire Alleg. Donc voilà, c'est souvent des considérations de personnes. Finalement, là-dedans, la télévision publique, le débat sur la télévision publique sur les contenus souvent mis de côté. Mais ces considérations de personnes reflètent aussi les rapports de force du marché télévisuel autour de France Télévisions et les rapports de force, les jeux d'influence qui traversent France Télévisions et qui entourent la télévision publique. C'est pratiquement des forces centrifuges autour de France Télévisions, c'est-à-dire en réalité la direction de France Télévisions a très très peu de pouvoir, très peu de marge de manœuvre sur les différents choix qu'elle fait. Voilà. Alors, notamment, pour quelles raisons on est dans cette situation-là? Parce que contrairement à d'autres services publics qu'on peut trouver en Europe, notamment je pense à l'exemple de la BBC, dont on parle souvent, mais en Angleterre ou en Allemagne, le service public en France de télé, il est caractérisé par le démantèlement de l'ORTF en 1974 et par la privatisation de TF1. C'est un peu le péché originel, la privatisation de TF1. Ce qui fait que, déjà, il y a des luttes d'influence entre les différentes chaînes publiques. Et chacun se marche sur les pieds. Et finalement, le président de France Télévisions doit arbitrer entre ces différentes chaînes, ces différents jeux d'influence. Alors, je parlais de la privatisation de TF1. Et donc, souvent, quand on parle de France Télévisions, on parle de TF1. L'ombre de TF1, effectivement, est souvent derrière de nombreuses décisions politiques concernant la télévision publique. Et on n'a pas attendu, là aussi, Nicolas Sarkozy et son ami Bouygues. Parce que dès 1993, en fait, TF1 attaque frontalement le groupe public auprès des services de Bruxelles au nom de la concurrence, car France Télévisions, à l'époque, reçoit une enveloppe de 1 milliard de francs de l'État pour se développer, et TF1 attaque à l'époque en disant c'est une atteinte au droit à la concurrence. Donc depuis 20 ans, en fait, TF1 attaque frontalement France Télévisions et les parts de marché de France Télévisions. Il y a un autre épisode. Bon, avant la commission Copé, là je remonte dans l'histoire, mais il y a eu la commission Campet en 93-94. Il fallait aussi réfléchir à qu'est-ce qui allait remplacer la 5 à l'époque. Donc bon, TF1, le lobbying de TF1, il est présent, caricatural même, je dirais. Il suffit d'entendre les lobbyistes de TF1 au Parlement s'émouvoir ou faire des jérémiades sur « mais nos parts de marché sont en train de baisser, notre gâteau publicitaire en train de baisser ». C'est vrai, le lobbying de TF1 est présent. On a pu le voir encore plus récemment sur le projet de la TNT qualifié de marxiste par Patrick Lelay, qui est déjà de TF1, ou le projet numérique de France Télévisions à l'époque, notamment la chaîne d'information publique qui aurait dû être lancée il y a une dizaine d'années, qui a été interrompue par Jean-Jacques Ayagon et les services de l'État en 2002 suite aux pressions de TF1. Ou on peut penser aussi à la vente de la chaîne Histoire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la chaîne Histoire, mais qui était dans le bouquet satellite TPS, et qui était une chaîne publique à la base, et qui a été revendue au groupe TF1 via notamment le journaliste Buisson. Ou encore plus récemment, la création de France 24 sur capitaux publics, mais 100% public au niveau des capitaux, mais partagé en actionnariat entre TF1 et France Télévisions. Et tout ça sur la volonté de Patrick Lelay, là encore,
qui ne voulait pas faire d'ombre, enfin, qui ne voulait pas que France Télévisions fasse de l'ombre avec une chaîne d'information par rapport à LCI. Donc,
bon, ça, tous ces éléments-là montrent que TF1 a pesé d'une manière continue sur France Télévisions. Lobby, comme je l'ai dit, puissant, peu discret, mais en réalité, on ne peut pas réduire, c'est un peu aussi tout ce que je raconte dans le livre, on ne peut pas réduire la destinée de France Télévisions aujourd'hui aux actions de TF1, ça serait trop simple, mais déjà parce qu'il y a d'autres groupes audiovisuels en France, puissants, et qui exercent le même lobbying sur le groupe public. Alors, il faut penser à Canal+. Alors, personne n'en parle de Canal+, déjà parce qu'ils ont plus de puissance, on va dire d'influence, notamment je pense à travers tout le financement du cinéma français. Donc, ils ont, on va dire, une influence sur les politiques médiées par le monde du cinéma. Il ne faut pas toucher à Canal+. Et donc, toute idée d'augmenter la redevance, on dit souvent les Français seraient contre, mais le groupe Canal+ sera également contre, voire une augmentation de la redevance qui pourrait peser sur leur part de marché en termes d'abonnement. Forcément, si les Français dépensent plus d'argent pour la télévision publique, ils vont peut-être se détourner de l'abonnement quasi obligatoire à Canal+. Il y a un deuxième groupe important, qui d'ailleurs fait partie de l'actionnariat de Canal+, c'est le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère qui, pendant toutes les années 90 jusqu'au début des années 2000, a pesé également sur le destin de France Télévisions. Alors, le père Jean-Luc Lagardère, je reviens à l'histoire, mais en fait, aurait voulu mettre la main sur TF1 en 87, et depuis, il s'est fait écarter, et depuis, il aurait voulu mettre la main d'une certaine manière sur France 2. Et entre 95, on va dire, et 2002, les débats qu'il y avait en cours à l'époque sur la privatisation de France 2, c'était en gros, du côté des politiques, si on privatise France 2, on réduit l'influence de TF1. Donc ça, on en reparlera peut-être. Mais donc, ce groupe-là, Lagardère, est toujours aussi puissant du côté du service public, mais par un autre biais, parce que depuis 2002, avec le développement de la TNT, le développement d'Internet, ainsi que la mort de Jean-Luc Lagardère, le groupe n'a plus d'intérêt direct à racheter un canal de télévision, donc notamment France 2. Mais le groupe pèse sur les programmes de France Télévisions à la hauteur de 100 millions d'euros à peu près, car ils ont racheté des boîtes de production qui travaillent principalement avec France Télévisions. Donc Serge Moati a vendu sa boîte de production à Lagardère et d'autres boîtes de production comme GNT, après c'est des noms un peu plus obscurs pour le grand public, mais en tout cas Lagardère a investi dans la production. Alors c'est une goutte d'eau par rapport au chiffre d'affaires global de Lagardère, qui est de plus de 3 milliards d'euros avec toutes les activités de Lagardère de communication, mais il faut savoir que c'est le seul groupe important dans les clients producteurs de France Télévisions et leur avis compte. Voilà. Et d'ailleurs, l'ancien directeur général du groupe France Télévisions, Patrice Duhamel, avait des liens historiques avec le groupe Lagardère, car il a été directeur de la rédaction de la chaîne La 5, qui a appartenu un bref temps, mais quand même qui a appartenu à Lagardère. Donc voilà, en gros, à la tête de France Télévisions, il y a toujours eu soit des amis de TF1, généralement, soit des amis de Lagardère pendant à peu près 10-15 ans. Et l'élection du CSA était généralement pour départager le rapport de force au sein du milieu audiovisuel entre ces deux groupes privés pour aller vite. Là, j'y vais à la hache, mais globalement, c'est à peu près ça qui a pu se passer. Alors, tous les médias depuis 2008, ils n'ont cessé de parler du lobbying de TF1. Bon, en réalité, les choses sont un peu plus compliquées depuis 5 ans, 6 ans, avec, je vous l'ai dit, le bouleversement avec l'arrivée de la TNT et le bouleversement lié à Internet, la multiplication des écrans, le changement des modes de consommation, c'est-à-dire en gros, les moins de 30-35 ans ne regardent plus vraiment la télévision sur leur vieux poste de télé, ils ne font que regarder la télé par des extraits vidéo sur Internet. Ça, c'est un enjeu extrêmement important, qui est généralement peu évoqué, y compris dans les médias ou à la marge. Et en réalité, ce qui s'est passé depuis 2008, il fallait le plus le regarder à l'aune des bouleversements actuels de la télé. C'est-à-dire, tout le monde a réfléchi comme si on était encore à 6 chaînes de télé dans un environnement hertzien, avec l'État et TF1
et M6 et Canal+, qui auraient été les maîtres du jeu. En réalité, maintenant, les choses sont beaucoup plus à regarder
à l'échelle européenne, à l'échelle des grands groupes de médias privés internationaux, européens, et avec l'arrivée de deux géants de la communication, comme Apple, Google ou France Télécom. Donc ça a été peu évoqué depuis 2008, la décision présidentielle de supprimer au moins une partie de la publicité, mais ça pèse sur les destinées de France Télévisions, je vais y revenir. Et enfin, le troisième groupe d'intérêt dont on parle relativement peu au-delà de TF1, je l'ai déjà évoqué, mais c'est le groupe des producteurs qui s'organise d'une manière assez efficace sur les programmes de France Télévisions à travers différentes représentations syndicales. Et ces producteurs-là vont directement auprès des pouvoirs publics défendre leurs intérêts. Et il y a un rapport, on va dire, asymétrique et inégalitaire, on va dire, entre la position des producteurs et les directions de France Télévisions, car en réalité les producteurs viennent souvent vont au-dessus de la direction de France Télévisions pour imposer leurs intérêts, leurs programmes, et c'est à celui qui a le plus de pouvoir, qui a le plus de capital social, qui a le plus d'influence dans le petit Paris, qui récupère les programmes, pour aller vite. Donc ça bloque l'entrée de nouveaux producteurs, de jeunes producteurs, de nouveaux programmes, car en réalité c'est toujours les mêmes vieux producteurs qui sont sur la place de Paris, qui continuent de vendre leurs programmes à France Télévisions. Donc après, on peut parler, je ne sais pas, de Fabienne Servan-Schreiber aussi, également. C'est pas des producteurs qui, en termes de, au niveau fiction, là je ne parle pas des animateurs producteurs, dont on parlera sûrement après, mais c'est des producteurs, on va dire, qui proposent quand même beaucoup de programmes à France Télévisions, en termes de fiction, de documentaire, et qui malheureusement proposent pas beaucoup de nouveautés. Et en plus, souvent, ce n'est pas fait en accord éditorial, on va dire, avec la chaîne. Alors, les derniers protagonistes importants autour de France Télévisions, c'est les hauts fonctionnaires. Ça, c'est peut-être la chose qui m'a le plus surpris dans l'enquête. C'est le poids des hauts fonctionnaires et de la technostructure sur France Télévisions. Ce n'est pas une entreprise comme une autre, France Télévisions. C'est d'abord une entreprise dirigée par des hauts fonctionnaires, qu'ils soient à Bercy, donc qui disposent de l'argent et qui récupèrent la redevance, contrairement à l'Allemagne où la redevance est récupérée par un organisme indépendant, et de l'autre côté, le ministère de la Culture. Voilà. Et ces hauts fonctionnaires-là, j'en ai rencontré beaucoup, la plupart du temps, leur seule idée, c'est que le service public, ça coûte de l'argent, ça provoque des ennuis, et de toute manière, ça gêne les groupes privés. Donc globalement, les hauts fonctionnaires vont toujours contre l'intérêt de France Télévisions, la plupart du temps. Par ailleurs, ça va plus généralement, dans le cadre de la doxa libérale à la tête de l'État et de ses hauts fonctionnaires, de dire le service public et les services publics en général, ça ne sert à rien. Donc il faut les supprimer, il faut les privatiser. Donc la plupart du temps, par exemple, les hauts fonctionnaires qui ont avéré la charge de la tutelle de France Télévisions ont fait en sorte, le plus possible, de pousser à l'externalisation du programme de France Télévisions. Parce qu'ils considéraient que la production en interne, c'était pas efficace, ça coûtait trop cher, et surtout c'était source d'ennui là aussi. Parce que forcément, se battre pour des programmes de qualité quand on est un collectif en interne à France Télévisions, c'est un peu plus facile que si les forces sont dispersées dans des boîtes de production avec des intermittences du spectacle, avec des contraintes de production très fortes. On parle souvent de l'école des buts de Chaumont, mais l'école des buts de Chaumont, elles étaient physiquement. Les réalisateurs et les techniciens étaient physiquement au but de Chaumont et ils faisaient dans le même espace, dans le même endroit, leur télévision publique. Donc cette omniprésence des hauts fonctionnaires, on le voit d'ailleurs dans les va-et-vient constants entre les directions de France Télévisions et les postes de conseillers ou de hauts fonctionnaires à Bercy au ministère de la Culture. Donc, par exemple, très récemment, la presse a peu commenté, mais c'est quand même assez important, le nouveau secrétaire général de France Télévisions, bon, c'est pas le numéro un en termes de cadre, mais il est quand même sur un poste important en termes organisationnels à France Télévisions, il s'appelle Yves Roland. Yves Roland était l'ancien conseiller audiovisuel d'Alain Juppé il y a 15 ans. Et il a été haut fonctionnaire, conseiller d'État, je crois, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, après, il a investi le monde de la culture et de la production à partir de son carnet d'adresses qu'il avait eu au ministère de la Culture et de la Communication quand il était conseiller, auprès d'Alain Juppé. Parce que là aussi, comme le monde de la production et des programmes en France est extrêmement politisé, en réalité, pour le dire d'une manière un peu simpliste, et pour être producteur de télévision aujourd'hui, il vaut mieux passer par les cabinets ministériels, se faire un carnet d'adresses dans le secteur de la culture et de la communication, puis après créer sa boîte de production et vendre son carnet d'adresses. Généralement, c'est plus efficace que de proposer et venir directement des métiers de l'audiovisuel et créer sa boîte de production auprès de France Télévisions. Alors, sinon, dans le passé récent, autour d'équipe Carolis, le directeur financier Thierry Baird était l'ancien inspecteur général des finances de Bercy pendant des années. Il est devenu directeur financier de Carolis, il est parti après deux ans. où autour de Karolis, il y avait également un environnement très politisé de Karolis, car son numéro 3 et son numéro 4, qui s'appelaient Bastien Milot et Damien Cuère, étaient des anciens conseillers très proches et toujours très proches de Jean-François Copé. Donc là aussi, l'influence politique au sein même de la structure de direction de France Télévisions, ça fait des années qu'elle existe. Et la présence de l'État et de la Ve République sur le poids sur les épaules de France Télévisions est là depuis très très longtemps. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a assez surpris dans l'enquête, c'est finalement les structures, et ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais les structures, on va dire, héritées de l'ORTF en termes administratifs, au niveau, que ce soit au niveau du top management ou au niveau des cadres administratifs au sein de France Télévisions, beaucoup de réflexes, beaucoup de postes, beaucoup d'histoires sont hérités en fait de cette mainmise et de ce poids de l'État sur France Télévisions. Alors, bon, j'évoque un épisode qu'on évoquera peut-être plus tard dans la discussion. Dans le livre, je reviens il y a à peu près 10 ans. Je fais un peu le bilan de la gauche plurielle il y a 10 ans, et notamment des ministères Trottmann et de Catherine Tasca, qui étaient respectivement donc ministre de la Culture et de la Communication. Et en fait, à l'époque, Trottmann, quand elle arrive, elle est nommée ministre de la Culture et de la Communication, elle a d'un côté le programme du Parti Socialiste, qui prévoit de lutter contre les effets de concentration dans les médias, donc en gros, qui prévoit de revenir sur les lois permettant à Bouygues d'avoir, je ne sais plus exactement, mais plus de 35% de propriété de TF1. Donc ça, c'était le programme socialiste en 1997, mais programme qui ne sera jamais respecté par Matignon et par Lionel Jospin. Et Catherine Trottmann avait essayé d'aller dans ce sens-là avec tout un tas de débats qu'il y a eu à l'époque. Et au final, Matignon lui a dit non. Donc elle a essayé de développer le service public à l'époque. Bon, ça, je reviendrai dans la discussion parce que c'est assez important. C'est parce que c'est par son biais que s'est constitué le groupe et la holding France Télévisions, ce qu'on appelait la holding et le groupe France Télévisions, c'est-à-dire que la présidence de France Télévisions puisse constituer groupe avec les anciennes chaînes publiques. Ça, c'est relativement important. Et en réalité, à l'époque, on a foutu beaucoup de bâtons dans les roues de Trottmann jusqu'à la faire sortir du gouvernement, car en fait, elle gênait beaucoup trop. Et elle gênait beaucoup trop parce qu'en fait, elle voulait respecter aussi le périmètre du service public, alors qu'en réalité, à la fin du gouvernement Jospin, du côté de Fabius et du ministère des Finances, on envisageait la privatisation de France 2, très sérieusement. Donc ça aussi, ça, je le raconte en détail. Et voilà. Pourquoi je reviens à Trottmann ? C'est parce qu'elle voulait réinverser le rapport de force avec l'État. Elle voulait que les directions de France Télévisions proposent la stratégie à l'actionnaire État. Or, depuis 10 ans, globalement, enfin, en tout cas, surtout depuis 2002, et le retour de la droite, les dirigeants de France Télévisions n'arrivent pas à proposer une stratégie à l'actionnaire État, car à chaque fois, c'est les hauts fonctionnaires qui dictent la stratégie au président de France Télévisions. Et ce qui s'est passé sous l'épisode Karolis, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire pendant 5 ans, il a essayé de défendre tant bien que mal, parfois souvent maladroitement, mais en tout cas, il a essayé de négocier des budgets supplémentaires, il a essayé de négocier des marges de manœuvre financières auprès de l'État, et en plus, il a essayé de dire le service public est légitime, alors que les hauts fonctionnaires lui disaient non, le service public n'est pas légitime, à part financer la culture. Et donc, il s'est fait taper sur les doigts. C'est ça aussi ce qui s'est passé derrière tout le jeu, on va dire, médiatique qui s'est passé entre Karolis et le président de la République. Voilà. Alors, pour finir, rapidement, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, les médias n'ont pas arrêté de parler de France Télévisions. Forcément, les médias, c'est quelque chose qui tourne en rond, comme vous savez, donc... Les médias aiment bien parler des médias, même d'une manière, on va dire, biaisée et pleine d'intérêt et surtout fausse. Mais il y a peu de médias qui se sont posés la question pourquoi, depuis la suppression de la pub en deuxième partie de soirée de France Télévisions, finalement, les choses avaient peu changé. Alors, les choses ont peu changé, notamment parce que, moi c'est ce que je dis dans le livre, l'occasion de repenser le modèle économique de France Télévisions n'a pas été prise depuis 3 ans, il n'y a pas eu de débat, et les vraies questions n'ont pas été posées dans le débat. Les vraies questions, c'est notamment, est-ce que France Télévisions, groupe public, retrouve la maîtrise de ses programmes ? C'est-à-dire, est-ce qu'une partie des programmes est réinternalisée ? Je ne dis pas qu'il faut réinternaliser tous les programmes, il en faut des boîtes de production extérieures, il en faut des boîtes de production dites indépendantes. Mais est-ce que France Télévisions retrouve la maîtrise de ses programmes ? Et ça, ça passe quand même par 2 choses. C'est une réinternalisation d'une partie des programmes et c'est une réappropriation des droits de ces programmes-là. Alors là, je suis un peu dans la technique, mais aujourd'hui, l'enjeu et la menace de France Télévisions pour France Télévisions, c'est moins TF1 et les groupes traditionnels privés de télévision que les nouveaux groupes de communication que je vous ai cités, France Télécom, Apple, Google. Ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ce qu'on appelle les télévisions connectées, qui mélangent télé et Internet. Et dans cet univers totalement bouleversé, l'intérêt, c'est plus l'intérêt d'une fréquence hertzienne comme au temps de la rareté de télé, mais l'intérêt, c'est qui est propriétaire des droits des programmes. Parce que la richesse aujourd'hui de la télévision, c'est les programmes, c'est plus l'antenne classique. Parce que finalement, les gens ne consomment plus une antenne classique, ou en tout cas consomment toujours, mais les nouveaux téléspectateurs ne la consomment plus d'une manière linéaire, mais vont consommer du programme au coup par coup. Voilà. Or, aujourd'hui, France Télévisions, contrairement à d'autres groupes publics européens, je pense à la ZDF en Allemagne ou en Angleterre, n'a que très peu les droits sur les programmes, et notamment les droits dérivés. En réalité, France Télévisions achète les programmes pour 3 diffusions, et après la 3e diffusion, le programme appartient au producteur, qui peut faire commerce de son programme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la circulation des programmes. Mais l'autre enjeu, c'est que France Télévisions n'a pas les droits dérivés, la plupart des droits dérivés sur les programmes, et donc, ça, c'est inversé au débat, enfin, en tout cas, on pourra en reparler. France Télévisions, contrairement au modèle de la BBC, on dit que la BBC n'a pas de publicité sur l'antenne, effectivement, mais la BBC, 18% du chiffre d'affaires de la BBC est issu des activités commerciales de la BBC à partir des droits dérivés de ses programmes. Donc en gros, des DVD, des bouquins, des productions Internet contre rémunération, tous ces éléments-là contribuent au budget de la BBC. Bon. Et aujourd'hui, depuis 2008, on a refusé à France Télévisions de se pencher réellement sur ces considérations-là. On n'a pas voulu que France Télévisions puisse être compétitive sur ces nouveaux marchés-là pour ne pas faire de l'ombre aux producteurs, aux autres télévisions et puis surtout aux gens qui avaient ces droits-là. Donc, ce qui s'est passé en 2008 notamment... Là, je vous dis encore quelque chose d'assez complexe, en tout cas technique. En 2008, il y a eu une menace sur les financements du groupe public, c'est vrai. Enfin, en tout cas, pendant 6 mois, tout le monde a crié au loup en disant comment l'État va financer ? Est-ce que l'État va financer ? Est-ce que l'État peut financer ? Est-ce que l'État veut ? Est-ce que M. Sarkozy ne veut pas tuer tout simplement le service public d'un coup ? Et en réalité, au même moment, les producteurs, le monde de la création, comme on dit, la culture... s'est mobilisé, et avec à travers leurs organisations indépendantes, notamment l'USPA, l'Union syndicale des producteurs et des auteurs, et ils ont obtenu des choses. Et en fait, ce qui s'est passé en 2008 pour la télévision publique, en fait, pour vous donner un ordre de comparaison, c'était exactement les mêmes débats qu'il y a eu autour d'Adopi, entre d'un côté les créateurs, les producteurs de musique, les chanteurs, et les grands majors, de l'autre côté, les diffuseurs, les consommateurs. Ça a été le même débat, sauf qu'il a été beaucoup moins rendu public, parce que beaucoup plus complexe pour le public. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'État a décidé que le groupe finance et doit financer 420 millions d'euros en valeur absolue de programmes en production extérieure. Et en valeur absolue, ça veut dire indépendamment du chiffre d'affaires du groupe. Donc en gros, là, le groupe continue à perdre de l'argent, mais est obligé de financer des programmes qui, pour certains, ne pourront pas être diffusés sur l'antenne. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Il y a même eu une enquête... de journalistes qui ont montré qu'il y avait plein de programmes qui n'étaient pas diffusés actuellement. Et quand les programmes ne sont pas diffusés à partir d'une certaine date, les droits tombent. Donc ils ont été payés sans être diffusés. Et en plus, ils n'ont pas pu être utilisés, même financièrement, par le groupe public. Il y a la limitation des productions internes à 5%, la production des émissions internes, pas en flux, mais en stock, c'est-à-dire les fictions et les documentaires. Mais ça va dans le même sens, c'est-à-dire quand il y a toute la polémique, par exemple, sur TADI, l'émission de France 3, sur la suppression quotidienne, oui, il y a plein de trucs, on pourrait dire plein de trucs, sauf que TADI est produit en partie en interne. Après, ce serait très compliqué, notamment par la filière de captation de France 3. Et ça n'allait pas vraiment dans le sens du vent, on va dire, depuis l'arrivée de Rémi Fimelin. Donc, voilà. Il y a ça. Et surtout, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Les producteurs ont obtenu pratiquement l'ensemble des produits dérivés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la renégociation des décrets TASCA qui régissaient les relations entre diffuseurs et producteurs, les producteurs ont obtenu l'ensemble des droits dérivés. Donc, par exemple, pour être dans un exemple concret, Plus belle la vie, le feuilleton, a succès. Pendant 5 ans, ce feuilleton a été à l'antenne de France 3. France 3 a exposé le programme, lui a permis d'avoir un public, même c'est un vrai succès d'audience. Et le producteur Tel France, en réalité, a tous les droits dérivés et donc peut vendre des t-shirts Plus belle la vie dans les supermarchés, peut utiliser l'image de ses comédiens pour son argent et pas pour l'argent du service public. Donc, comme je dis, encore une fois, privatisation des profits et perte pour le service public. C'est souvent comme ça. Et dans d'autres secteurs également. Donc, quand je dis en 2008, il s'est passé des choses, le meilleur exemple, c'est que la personne qui était en charge de négocier entre les tutelles, le ministère de la Culture et France Télévisions, qui était le directeur de la programmation de France Télévisions à l'époque, il s'appelle Thierry Langlois, il est peu connu, mais il est devenu, depuis la rentrée, directeur du Centre National de la Cinématographie. Voilà, donc là, c'est encore les va-et-vient et les passerelles. Quand on permet à ses petits copains d'avoir plus d'argent ou d'aller dans ces intérêts-là, il y a les renvois d'ascenseur. Souvent, ça se passe comme ça. Alors, le deuxième enjeu, en tout cas pour l'avenir de France Télévisions, je vous l'ai dit, c'est donc valoriser les programmes et d'une manière financière, et en tout cas les valoriser également dans l'univers numérique. Ça, je vous ai dit déjà, c'est mal barré, on va dire. Et le deuxième enjeu, ça serait que les rédactions de France Télévisions puissent produire davantage sur Internet et sur en multimédia. Non. Ça, c'est des projets qui sont mis en place, l'actuelle direction de France Télévisions essaye de mettre en place. Donc, il y a l'arrivée notamment de Bruno Patino du Monde qui dirigeait lemonde.fr, notamment. Mais ça va être très compliqué à faire. Et notamment parce que à l'échelle européenne, les médias privés, que ça soit presse écrite ou médias télévisuels, ou audiovisuels, je peux penser au groupe Murdoch en Angleterre, n'ont pas cessé depuis 5 ans de passer à l'offensive contre les services publics, que ça soit en Allemagne, en Belgique, Portugal, en France d'une manière plus feutrée, et en Angleterre, pour que les services publics soient empêchés de se déployer et puissent utiliser la redevance pour se déployer sur le numérique et sur Internet. Ce qui fait par exemple que la BBC avait une stratégie Internet depuis 10 ans, et Bruxelles, enfin les services européens, après le lobbying de Murdoch, très puissant groupe privé en Angleterre, a décidé de demander à la BBC de réduire la voilure sur Internet. Donc il y a eu des radios disponibles sur Internet qui ont été supprimées, il y a eu du contenu multimédia et des articles qui avaient été écrits par les journalistes de la BBC qui ont été supprimés sur Internet. Quand je dis en France, c'est un débat plus feutré, c'est que, un, la presse écrite nationale est tellement exsangue qu'en réalité, il ne viendrait jamais à l'esprit des hauts fonctionnaires dont je vous parlais tout à l'heure de développer le service public sur le multimédia. En gros, on permet à la presse de diffuser des programmes, enfin de diffuser des contenus audiovisuels à partir de leur plateforme, mais on va difficilement permettre à France Télévisions de le faire. Ça sera fait, mais ça ne sera pas super bien fait. Et surtout, ça ne sera pas fait d'une manière, d'une manière multimédia avec différents contenus. Ça va être difficile à faire, en tout cas. Après, on peut débattre. Hein. Est-ce qu'il faut le faire, patati, patata. Mais en tout cas, ce serait une porte de sortie généreuse pour le service public. C'est-à-dire, en gros, que le service public de télévision récupère un public, tout simplement. Voilà. Et encore une fois, à travers tous ces enjeux-là, c'est ce que je vous disais, l'arrivée des télévisions connectées, les grands groupes internationaux, et donc, encore une fois, qui maîtrise les images ? Voilà, c'est l'enjeu, qui maîtrise les images ? Et si les images, si la propriété des images, c'est plus le service public, on arrive à la limite, on va dire, de la notion de service public, en termes, on va dire, pas en termes d'idées, ni d'idéaux, mais en termes de réalisation concrète dans l'environnement du marché télévisuel actuel. En gros, ce que je veux dire par rapport à cette contrainte-là, de ce débat-là, culture, télévision publique, direction de France Télévisions et groupe privé, généralement, à ce petit jeu-là, c'est toujours France Télévisions qui perd, globalement. C'est toujours France Télévisions qui perd, parce qu'en fait, c'est des caches sexes, ces débats-là, en réalité. Parce que les gens qui réclament plus de culture, au niveau, j'entends du pouvoir, hein, je ne parle pas des citoyens, hein, je parle des gens de pouvoir, des gens qui ont du pouvoir, et les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, quand ils disent « il faut plus de culture sur France Télévisions », en fait, ils ne regardent pas France Télévisions, ils ne regardent pas la télévision. Ils ont le plus haut mépris du peuple, ça je vais plus le voir en les rencontrant, ils ont donc le plus haut mépris pour une télévision publique populaire, qui s'adresse au peuple aussi. Et ils s'en foutent. Eux, ils disent plus de culture, parce que comme ça, c'est noble, et surtout, ça fait pas de l'ombre économique au niveau du marché audiovisuel. Donc, France Télévisions est dans sa case. Moi, je pense que le débat citoyen sur les programmes de télévision et de télévision publique, il peut avoir lieu seulement si à l'intérieur de France Télévisions, il y a le rapport de force qui fait que les salariés peuvent également dire « il faut qu'on fasse ça, il faut faire ça ». Donc, moi, je pense que la question de la qualité, elle est liée à la question « quelle autonomie pour les salariés du service public ?» À la fois autonomie politique, mais autonomie économique et sociale. Mais globalement, comme les directions de France Télévisions partagent le même souci que les hauts fonctionnaires de dire « on ne veut surtout pas avoir le port de Marseille et la CGT », parce que c'est comme ça, c'est quand même ça les présupposés. S'il y a des salariés qui auraient qui pourraient menacer d'interrompre l'antenne en faisant des grèves, qui pourraient avoir un poids et une influence dans le produit et le contenu qu'ils produisent, eh ben, ça pourrait aboutir au blocage total. Donc globalement, ça c'est l'excuse générale d'ailleurs des hauts fonctionnaires ou des présidents de France Télévisions ou autres, ça a toujours été le chiffon rouge des syndicats et notamment de la CGT. Or, moi c'est toute la thèse de mon livre. Les syndicats ont participé à des choses, en tout cas en termes d'inertie, mais généralement, ils viennent. C'est la conséquence de choix qui n'ont pas été opérés, par les directions et par l'État.
Alors, je pense que ce qui ressort de son enquête et ce qui ressort de son propos, c'est une chose fondamentale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de télévision, de service public, qui n'est la maîtrise de sa stratégie industrielle et de ses programmes. Or, on se trouve dans la situation très simple, et ensuite on peut décrire les causes, où on a une télévision publique qui n'a ni la maîtrise de sa stratégie industrielle ou économique, ni la maîtrise de ses programmes. Voilà. Et alors, si elle ne l'a pas, c'est pour un enchevêtrement de causes que son bouquin met de façon très concrète en évidence. C'est peut-être que j'évoque ça parce que ça n'a pas été cité, parce que la télévision publique est soumise à une concurrence commerciale des chaînes privées, ça tu l'as évoqué, mais sous l'œil de Bruxelles, en plus, c'est-à-dire de la concurrence libre et complètement faussée version Bruxelles, bien, donc aucune autonomie, et deuxièmement des politiques, parce que l'un soutient l'autre, des politiques de droite mais aussi de gauche qui soutiennent cette mise en concurrence systématique des chaînes publiques avec les chaînes privées et qui acceptent de laisser aller à volo le secteur public. Moi, dans ton bouquin, il y a deux, trois épisodes qui m'ont frappé. J'en cite deux. Je ne soupçonnais pas à quel point Marc Tessier et de Carolis avaient essayé de bien faire. C'est-à-dire que quand on regarde le projet de Marc Tessier, qui n'est quand même pas un gauchiste invétéré, partisan de l'autogestion généralisée des chaînes publiques, hein, c'est pas le genre. Il avait eu, lui et son équipe, parce que ce n'est pas des questions de personne, une claire compréhension de deux choses, l'importance de la TNT et, en filigrane, c'était, ça ne portait pas encore ce nom-là, du multimédia. Il avait vu ça. Il s'est vu opposer frontalement TF1. Et ce sont les chaînes privées qui, alors qu'elles étaient opposées au déploiement des chaînes publiques sur le déploiement de la TNT et donc des chaînes publiques sur la TNT, qui ont gagné la mise de la TNT. De la même façon avec De Carolis, il y avait eu une grande proclamation d'un tournant éditorial, bien, dont il n'avait absolument ni les moyens financiers, ni les moyens politiques. Ce sont France Télévisions, c'est une administration sous tutelle. Ça a été amplement décrit, je n'y reviens pas. Donc sans reconquête d'une maîtrise de la stratégie économique et de la stratégie de programmation, donc de la réinternalisation d'une grande partie de la production, il n'y a pas d'avenir pour le secteur public. Il n'y a pas d'avenir. Et le deuxième point que je voulais dire, qui est peut-être une réponse sur la question de la qualité. Je pense qu'en matière de secteur public, ça n'est pas au gouvernement de dire ce que doit être la qualité. Ni aux journaux. Hein ? Qui peuvent porter des appréciations critiques sur la qualité des programmes. Bon. Mais ce n'est pas au gouvernement de fixer les programmes. En la matière, il n'y a qu'une seule politique qui vaille, c'est la diversité. C'est-à-dire que l'audiovisuel, et parler d'audiovisuel est déjà archaïque, hein, mais le multimédia maîtrisé, c'est quelque chose qui assume la diversité des adresses à des publics qui sont des publics différenciés. Voilà, qui assume cette diversité. Qui donc fait une grande chaîne de télévision généraliste et populaire. Pas forcément vulgaire, mais populaire. Pas France Culture sur France 2. Hein. Télépédago, avec opéra obligatoire une fois par semaine. Bien. Mais qui en même temps est capable de développer une véritable chaîne culturelle, qui est capable de développer une vraie chaîne internationale d'information, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui est capable de développer des chaînes thématiques s'adressant à des publics différenciés par catégorie, par goût, etc. Or, France Télévisions n'a absolument ni la maîtrise des canaux, ni la maîtrise des programmes qui correspondraient à une offre aussi différenciée. Si bien que, ça sera ma petite conclusion provisoire pour l'instant, pour sauver le service, pour refonder le service public et sauver le secteur public, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien, d'un déclin inexorable, comme on avait titré le débat, les enchères sont très élevées, très très élevées. Parce que la reconquête de cette maîtrise, ça veut dire une remise en cause des politiques européennes, chacun votera pour le candidat son choix aux prochaines présidentielles pour savoir quel est celui qui remet en cause le mieux ou le moins mal ces politiques européennes. Enfin, ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. Hein, ce n'est pas le cocorico français radical qui va résoudre le problème. Et deuxièmement, c'est la deuxième mesure de salubrité publique, il y a trois. C'est la déprivatisation de TF1. Silence dans les rangs de la gauche là-dessus. Silence. Et troisièmement, c'est évidemment la suppression des décrets TASCA, c'est-à-dire la réintégration de la maîtrise de la production des programmes à l'intérieur du secteur public. Sans ces trois positions-là de base, il n'y a pas de service public qui tienne la route.
Je travaille à France Télévisions. Le problème du Parti Socialiste, qui fait une impasse absolue sur les questions stratégiques, ils n'ont pas du tout réfléchi à l'abolition des décrets TASCA, ils n'ont pas du tout réfléchi à la réinternalisation de la production, ils n'ont pas du tout réfléchi à redonner à la télévision publique un véritable poids, à faire. Enfin, voilà, j'ai été frappé, moi, par l'indigence. Et tu disais dans ton enquête, d'ailleurs, tu avais été frappé toi aussi par le fait que, quels que soient tes interlocuteurs, ils ont tous une vision assez parcellaire des enjeux de la télévision, ils n'ont pas une vision globale. Et j'ai l'impression que cette vision globale de la télévision publique, elle est aujourd'hui, elle est perdue. Il n'y a pratiquement plus, de politiques qui sont en mesure, même les experts, d'avoir une vision globale de tous les enjeux autour de la télévision publique.
Là, je vais vous dire un peu mon sentiment sur la situation du Parti Socialiste. Et Fernando évoquait l'absence de discours du Parti Socialiste justement sur cette externalisation des programmes et sur les fameux décrets TASCA. Bon, en gros, le Parti Socialiste a utilisé depuis 20 ans considère France Télévisions comme pas comme une entreprise publique avec ses intérêts économiques propres, son intérêt social propre et des parts de marché, considère France Télévisions comme une administration culturelle qui doit financer des prébandes à des producteurs et dit de la création dans le cadre de l'exception culturelle. C'est comme ça que le Parti Socialiste considère France Télévisions. Donc le Parti Socialiste ne peut pas avoir une vision stratégique sur la télévision publique ou une vision stratégique sur le marché de l'audiovisuel parce qu'il considère France Télévisions simplement comme une grosse boîte noire avec pas mal d'argent quand même s'il y a moins d'argent que dans d'autres services publics européens, mais comme une grosse boîte noire à qui permet de financer la dite création. Quand je dis la dite création, encore une fois, bon là c'est peut-être un jugement de valeur de ma part, mais en tout cas, j'ai qu'à voir à l'écran ce qu'on nous propose. Bon. Donc le PS n'a pas de vision stratégique audiovisuelle du marché et de la télévision publique parce que, de toute façon, France Télévisions, si on finance France Télévisions, ça suffit de toute manière, ça permet de faire des belles fictions, comme ça, l'élu local est content quand il y a tel tournage qui est effectué dans sa ville, enfin bon. Ça, c'est un premier élément. Bon. C'est-à-dire qu'il ne considère pas d'une manière économique, mais au sens noble du terme, pas au sens surenchère commerciale, ils ne considèrent pas d'une manière économique la télévision publique. Ou les médias en général, d'ailleurs. Les médias, pour eux, il n'y a pas d'enjeu économique derrière. Bon. Deuxième point, là, il faut revenir sur l'histoire pour comprendre le rapport entre le Parti Socialiste et France Télévisions. Bon, en réalité, dans le jeu des placards des rédactions de télévision, les placards les plus massifs, ça a été justement 74 avec l'arrivée des Giscardiens. En 74, Giscard, il fait le ménage et il y a des centaines de journalistes de la télévision publique qui sont foutus au placard ou virés. Bon, en 81, quand le Parti Socialiste arrive au pouvoir, il n'y a pas cette chasse aux sorcières d'une manière aussi, on va dire, importante, contrairement à ce que les commentateurs ont bien voulu dire. Et ça, c'est du côté des rédactions. Mais du côté des directions de France Télévisions, enfin à l'époque c'était pas France Télévisions mais des chaînes publiques, bien sûr, bon, tout le monde parle de Pierre Desgros et de ce souvenir formidable, mais sauf que à l'époque la hiérarchie intermédiaire de France Télévisions était toujours héritée de l'ORTF et de l'influence giscardienne, ce qui fait que 30 ans plus tard, moi j'en ai rencontré des anciens cadres de France Télévisions ou de la télévision publique, mais des anciens cadres qui viennent de partir de France Télévisions, qui viennent de partir à la retraite depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, allez, encore 4 ans, étaient tous d'obédience politique de droite, la plupart du temps. Parce que le PS, quand ils arrivent au pouvoir en 81, donc ils mettent quelques journalistes, on va dire communistes ou un peu sympathisants socialistes, à l'antenne, mais globalement, ils ne prennent pas contrôle de l'appareil télévisuel, de la télévision publique. Alors, à la fois parce que, je ne sais pas, ils sont peut-être Sainte-Moutouche, ils ne voulaient pas qu'on les critique en disant « on a pris contrôle de l'appareil », comme fait très bien Nicolas Sarkozy ou même avant Chirac et compagnie, mais il n'y a pas eu cet épisode-là. Et les socialistes, pour reprendre influence sur le marché audiovisuel, donc, ils ont procédé par la libéralisation et par par la création de Canal+, où ils ont eu de l'influence par Canal+, grosse lèvre quand même, hein. Mais également, il y a eu tout ce biais-là d'influence, et l'autre biais d'influence, ça a été de développer, et de développer les boîtes de production dans le cadre de l'exception culturelle. Donc finalement, c'est la politique de Jack Lang par rapport à la création culturelle générale, sauf là, appliquée au système audiovisuel. Et donc, depuis début des années 90, c'est les fameux décrets TASCA. Quelle est l'influence directe du Parti Socialiste sur l'appareil de production de la télévision publique? C'est par le biais de cette production culturelle et de création. Voilà. Justement, pourquoi Serge Moati est aussi impuissant à la télévision publique? C'est bien par cet objet-là, on va dire, d'influence politique, qu'on le veuille ou non. On n'en parle pas, mais globalement, c'est ça. Henri Mahler parle souvent, je crois, de gauche télérama, c'est ça que tu me dis? Bon, mais c'est cette influence-là. Avec...
Et Nouvelle Obs aussi. Bon. Gauche télérama et Nouvelle Obs.
Mais je veux dire, c'est de la bonne conscience de gauche, effectivement, mais c'est de la bonne conscience de gauche qui ne réfléchit pas en termes de rapport de force salariale au sein de la télévision publique.
C'est vrai qu'on fait ce constat depuis 15 ans d'un déclin inexorable de la télévision publique, et qui est lié très globalement, d'après moi, au désengagement de l'État de tous ces secteurs publics, de tout le secteur public, et de toute la politique de l'État et de l'Europe est de favoriser le secteur privé. On se retrouve avec une situation aujourd'hui de fragilité globale, d'ailleurs, du secteur audiovisuel, pas simplement de la télévision publique, mais de l'audiovisuel français, qui est, à part le cinéma, qui est bien géré, et qui a une politique volontariste, de production. L'audiovisuel, par contre, est un nain, par rapport aux enjeux que devrait être l'audiovisuel dans un pays développé comme la France. La question, c'est, y a-t-il encore moyen de sauver la télévision publique, ou du moins, parce que est-ce qu'il en reste? S'il y avait un programme à mettre en place, quel serait-il pour développer ou pour sauver la télévision publique?
Il faut bouleverser d'une manière, de fond en comble, plein de choses dont on a parlé. Il faudrait remettre à plat toute la production et faire un yalta de la production et vraiment mettre les producteurs en face de leurs responsabilités, mais également les diffuseurs, enfin en tout cas les chaînes, devant leurs propres responsabilités. Il faudrait renouveler les cadres intermédiaires au niveau des unités de programme, parce que là c'est pareil, c'est toujours les mêmes. Là je vous ai parlé beaucoup des hauts fonctionnaires qui viennent et qui font des va-et-vient, mais dans les unités de programme de France Télévisions, qui achètent les programmes aux boîtes de production, généralement, c'est des va-et-vient constants entre les boîtes de production, le groupe Lagardère, et on revient, et patati et patata. C'est toujours jeu de chaise musicale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une évolution de carrière, patati, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas particulièrement de renouvellement dans ces gens-là. C'est pour ça que, durant l'enquête, d'ailleurs, je parlais donc à un fameux conseiller de programme, là, je vous parlais tout à l'heure, et je lui disais, mais vous n'avez pas les droits dérivés, ça ne vous gêne pas. Et alors, en fait, quand je lui disais ça, il ne comprenait pas ce que je lui racontais, parce que, effectivement, France Télévisions a récupéré des droits de diffusion de ce qu'on appelle de délinéarisation, c'est-à-dire la possibilité pour France Télévisions de diffuser certains programmes en catch-up TV ou en VOD, sur un certain temps, c'est-à-dire sur une semaine. C'est le service Plus dont on parle un peu. Bon. Donc la France Télévisions a des droits de diffusion temporaires sur Internet. Ils sont temporaires, ils sont relativement courts, et c'est ce qu'on appelle les droits de délinéarisation. C'est-à-dire c'est encore des droits de diffusion, mais plus sur antenne classique, mais également sur Internet. Et le conseiller de programme me disait « Mais regarde, on a plein de droits, on ne sait même pas quoi en faire. » Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une question de savoir-faire qui se pose à ces cadres-là. C'est-à-dire c'est des gens qui ne, même quand ils sont jeunes, parce que là, la personne à qui je pense est relativement, je ne sais pas, une quarantaine d'années, même ces gens-là, d'une quarantaine d'années, au sein de la télévision publique, mais ça pourrait être le cas aussi en télévision privée, c'est-à-dire qu'il y a un manque de savoir-faire et d'adaptation à la révolution en cours au niveau du numérique, mais ça s'est posé au niveau des majors musicales, enfin, voilà. C'est des gens qui se sont très peu remis en question, parce que justement, jusqu'à présent, ils n'avaient pas ces questions-là à se poser. Notamment, ils ne se posaient pas la question de comment faire pour trouver des nouveaux publics, pour les intéresser à ce qu'on fait, à leur proposer des programmes différents, justement à diversifier également aujourd'hui, avec le numérique, diversifier les différents publics. France Télévisions pourrait très bien faire plein de programmes très très différents, y compris sur Internet, pour plein de publics différents. Quand on prend la question des médias en France, soit on la prend du côté des consommateurs ou des lecteurs, des citoyens, soit on la prend du côté des patrons de presse ou autres, mais on n'en fait jamais on ne prend jamais les médias comme l'expression du système démocratique français, c'est-à-dire du système institutionnel. Et la télévision publique qu'on a, avec les va-et-vient de hauts fonctionnaires que je vous ai décrit, avec la tutelle féroce de Bercy, le poids des finances de Bercy sur France Télévisions, c'est le résultat simplement du système institutionnel de la Ve République. La presse écrite, nationale, tout le monde dit, le papier est cher, oui, les ouvriers du livre on nous embêtent, c'est les patrons qui disent ça. Bon, après, il y a des choses à dire aussi sur eux, mais en tout, globalement, c'est les discours qu'on a, mais personne ne dit que la faiblesse de la presse écrite nationale ou l'état de la presse régionale aujourd'hui, c'est-à-dire les monopoles en région de quelques grands groupes, est le résultat du faible débat démocratique dans le pays. C'est-à-dire, on n'a pas de grands quotidiens régionaux comme dans d'autres pays, parce que les métropoles qui pourraient être l'objet de pouvoir politique et économique en France n'ont pas de poids par rapport à un État extrêmement centralisé sur Paris. La presse nationale, enfin plutôt parisienne, elles ont un État aussi fragile parce que, quand l'élection présidentielle décide de tout en termes d'alternance politique, enfin alternance c'est un grand mot, mais en tout cas de changement de personnel politique à la tête de l'État français, et que ça se passe globalement par des stratégies de sondage et de télévision, oui, ça se passe partout pareil, sauf qu'en France, c'est renforcé parce que c'est la Ve République, c'est l'élection présidentielle. En Italie ou en Allemagne, la presse écrite est composée d'une manière totalement différente. Si je fais la comparaison avec l'Italie, la presse écrite italienne, on va dire, en termes économiques, à peu près le même support en termes de public que les Français, c'est-à-dire les Italiens lisent assez peu de presse généraliste et politique comme en France. Mais la presse politique italienne est quand même plus forte que la presse française. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a un régime parlementaire où il y a des alliances politiques qui doivent se faire. Donc il y a des financements politiques, je veux dire.
Il y a un intérêt que les structures politiques, elles ont un intérêt direct à ce qu'il y ait une presse politique et généraliste
diversifiée et qui puisse donner écho au débat parlementaire. C'est un va-et-vient. En France, comme tout se fait au niveau des décisions économiques dans des cabinets ministériels entre trois portes, et que de l'autre côté, les décisions démocratiques d'élection, ça se fait en gros sur le débat du second tour quand il y en a un pour l'élection présidentielle, ça aboutit à un regard malthusien sur les médias. C'est-à-dire pour ça que je pense que ça bloque aussi du côté de la gauche de gauche qu'il n'y ait pas de discours, que ce soit Besançon ou Mélenchon, parce que de toute manière, qu'ils le disent ou non, ils sont intégrés à ce système politico-médiatique et qui est très féroce en France. Et ça, je pense, c'est mon analyse. En tout cas, mon avis, c'est qu'en France, le poids des médias est d'autant plus fort, enfin, le poids des médias, il est fragile, il est faible économiquement, mais fort en termes d'influence. Le poids des images est fort parce que, justement, c'est la Ve République.
Juste un point, au début du débat, vous avez évoqué le traitement de l'information sur France Télévisions et Vatan en particulier. Ça serait dommage de nous en priver. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Alors, vous n'êtes pas trop fatigué? Bon. Les rédactions. Alors, dans le livre, j'ai surtout parlé de la rédaction de France 2. Un peu moins. J'ai parlé des rédactions de France 3 régionales ou rédaction de France 3 nationale, mais moins en termes d'information, plus en termes de structure, d'histoire, d'entreprise, de combat syndical. Alors après, la rédaction de France 2. Donc Pujadas arrive en 2001, il vient de la chaîne info de TF1, LCI. Donc lui, il veut du tout info et il veut transformer le 20h en chaîne info, c'est-à-dire avec une multiplication des hosts, c'est-à-dire des commentaires d'images que lui peut faire et avec moins de reportages, ou en tout cas des reportages beaucoup plus courts. Ça a été une période pendant au moins 5 ans où il n'a pas arrêté de faire ça, en tout cas, on va dire 4 ans. Là, ça s'est un peu atténué. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant, ils font des sujets enquête sur plusieurs minutes. C'est un peu plus long.
Le dossier, 2 minutes 20.
C'est des sujets plus magazines, donc souvent, moins sensibles politiquement aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont derrière. Mais bon, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont plus jamais été sérieux en 2001, et surtout en 2003, il se passe quelque chose au sein de la rédaction de France 2, qui est dirigée depuis 2001 aussi par Olivier Mazerolle, qui vient d'RTL et de la radio. Il y a la suppression des anciens services. C'est ce qui est en train d'ailleurs de se passer à la rédaction nationale de France 3 depuis quelques mois. Une rédaction importante comme la rédaction de France 2, qui a à peu près 350 journalistes, a été un rédacteur en chef. C'est une rédaction traditionnelle à l'époque, enfin, il y a 15-20 ans, avec des services et des chefs de service, des services spécialisés, donc un service politique, un service économique, un service, il y avait encore un service social il y a 20 ans, mais un service santé. Voilà, donc les journalistes sont mis dans des petites divisions où chacun se partage le traitement de l'actualité en service. Et à la tête de ces services, il y avait des chefs de service qui étaient les principaux interlocuteurs en conférence de rédaction et qui étaient les principaux interlocuteurs de ce qu'on appelle les rédactions en chef des éditions. C'est-à-dire les rédactions en chef des éditions. En gros, d'un côté, il y a les producteurs de reportages, enfin les services d'idées de reportage, et de l'autre côté, les rédacteurs en chef des éditions, qui sont souvent plusieurs, eux, ils font le menu du JT. Voilà, ils font, en presse écrite, c'est comme s'ils faisaient le chemin de fer, c'est-à-dire le menu des journaux. Et il y a 10 ans, encore à la rédaction de France 2, les conférences de la rédaction, c'était une confrontation, un rapport de force entre les chefs de service qui défendaient le travail de terrain et le travail des journalistes engagés dans les services, leurs journalistes, et les rédactions en chef et le présentateur. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à Jean-Pujol. En fait, ce qui s'est passé en 2003 à la rédaction de France 2, c'est comme sur le modèle de TF1, ils ont supprimé les services. En tout cas, ils ont supprimé les services traditionnels en termes de thématiques comme ça. Et ils ont organisé la rédaction de France 2 en deux grands services. D'un côté, ils ont foutu le service dit noble, enfin noble pour les journalistes, et en tout cas, il est considéré comme tel au sein de la rédaction, c'est-à-dire le service enquête et reportage, et le service vie quotidienne et santé et éducation. Globalement, c'est on a mis tout le reste dans un même service. D'un côté, pour reprendre les termes d'un journaliste que j'ai interrogé, d'un côté, il y a les bras cassés, de l'autre côté, il y a les cadors. Mais les cadors, entre guillemets, au niveau du service enquête et reportage, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est l'ancien service information générale justice qui suivait les faits divers et les procédures judiciaires, donc tout ce qu'on appelle l'infogéné globalement dans les journaux, dans les médias, qui ont été fusionnés avec l'ancien service étranger. Ce qui fait qu'en 2003, des reporters de faits divers ont pu être envoyés sur des terrains de guerre. Et traités comme tels, comme des faits divers. Ou vice versa, d'ailleurs, des reporters internationaux ont pu faire du fait divers. Donc il y a eu un mélange des genres à ce niveau-là. Ça serait un autre sujet, mais donc il y a les anciens du service étranger qui ont refusé ça, se sont retrouvés mis un peu à l'écart. Bon, ils étaient un peu fatigués aussi, mais quand même, ils ont été mis un peu à l'écart. Il y a même une expression dans la rédaction de France 2, ils sont mis au bocal. Donc il y a quelques grandes signatures qui passent toujours à l'antenne d'ailleurs, mais qui vont plus sur le terrain, qui vont plus faire des reportages, mais qui vont faire des cabines, c'est-à-dire ils vont enregistrer des sujets à Paris et faire du commentaire, alors que parfois ils ont 30 ans de métier, ils parlent arabe, ils connaissent le monde arabo-musulman, je pense à quelqu'un là, ou je pense à d'autres personnes. Bon. Après, donc, ce qui s'est passé, c'est que comme les services ont été supprimés, bon, là, c'est un peu schématique hein, ce que je vous raconte, mais comme les services ont été supprimés, les services thématiques ont été supprimés, le rapport de force au sein de la rédaction s'est déplacé. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé du côté des rédactions en chef des éditions et du présentateur. Et donc Pujadas a pu facilement, d'une certaine manière, dire « Ah ben, je veux tel sujet, je veux tel sujet, ou j'ai lu le Parisien, il faut me faire tel sujet, et patati patata ». Et de l'autre côté, les services n'étaient plus organisés en force de proposition. Donc, ils ne proposaient plus de sujets. Donc, avant, il y avait, on va dire, un double mouvement. Il y avait des éditions qui faisaient leur journal, leur JT, et de l'autre côté, il y avait des services qui, par leur spécialité, par les enquêtes accumulées sur les sujets, pouvaient dire, ah ben tiens, ça, il faudrait peut-être faire un sujet sur ça, ou faire une enquête, ou voilà. Ça, ce mécanisme-là, assez fragile, a été cassé depuis 8 ans, globalement, en tout cas la rédaction de France 2. Et donc ça a accompagné un mouvement de sensationnalisme, que ce soit au niveau de la couverture de l'actualité étrangère, des faits divers ou autres. Et par ailleurs, ça a permis aux présentateurs de personnaliser davantage le JT. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à France 2, globalement. C'est pour ça qu'après, quand Arlette Chabot est arrivée en 2004, elle avait déjà le travail mâché, c'est-à-dire que ça a été l'une des, c'est ce que je mets dans le livre, l'une des directrices de l'information qui est restée le plus longtemps à la tête de la rédaction de France 2, parce qu'en réalité, en fait, il n'y avait plus de contre-pouvoir journalistique au sein de la rédaction de France 2 quand elle était arrivée déjà.
Voilà. Il faut savoir clore un débat une fois qu'on a obtenu satisfaction. C'est la phrase de nous.